Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, plus de 1000 suppressions d'emplois chez General Electric à Belfort. 4 ans après la reprise, les promesses d'embauche sont très très loin. Nous allons à Belfort dans un instant. La droite s'enfonce dans la crise. Après les appels à démission de Laurent Wauquiez, après une réunion tendue hier soir, le président du Sénat, Gérard Larcher, lance une démarche pour rassembler droite et centre. Yaël Gauze nous expliquera. La politique 2 jours après les européennes, l'invité de ce journal est la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle se réjouit du succès de l'écologie à Paris. Et ce matin, elle valide la limitation de la vitesse à 50 km/h sur le périph. Dès l'année prochaine, c'est son souhait. À plus long terme, la maire souhaite la quasi-fermeture du périphérique. L'Europe après les élections à l'étranger, en Grande-Bretagne, la gauche accentue la pression pour un nouveau référendum sur le Brexit. Dans ce journal encore, quand le procureur de Paris recadre le ministre de l'Intérieur, c'est l'enquête sur l'attentat de Lyon. Rémi Yates rappelle à Christophe Castaner que c'est lui et personne d'autre qui donne les informations. Les Françaises ne font pas assez de sport. C'est la conclusion d'un nouveau rapport que nous détaille Véronique Julia. Les derniers chiffres du tabac en France. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Ce sera votre chronique.
Oui, 1 600 000 fumeurs en moins depuis 2016, mais le tabac est encore la cause d'une mort sur 8.
Vous nous donnerez les détails tout à l'heure. Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Météo France, encore un peu de gris avant le bleu, des températures plutôt fraîches pour la saison.
Oui, les maximales cet après-midi seront en dessous des moyennes de saison d'environ 4 degrés. Ne prévoyez pas plus de 15 à 19 degrés en général, ce sera plus doux en vous rapprochant de la Méditerranée. On prévoit 21 à Nice et 24 à Marseille. Et puis côté ciel, prévoyez un régime d'averse parfois orageuse.
Bon, on va prévoir le régime d'averse alors. Et puis c'est un rendez-vous important chaque année pour nous, le prix du Livre Inter. Il sera décerné le 9 juin. D'ici là, dans cette édition, un rendez-vous tous les jours pour parler de littérature. Les auteurs en course au micro d'Eva Bétan. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Ils avaient promis de créer 1000 emplois, ils vont en supprimer 1050, ce que redoutaient les salariés de l'usine General Electric ex-Alstom de Belfort a été annoncé ce matin lors d'un comité social européen de General Electric. 1050 suppressions de postes. Voici la guitoune.
1044 emplois pour être précis, c'est ce que la direction vient d'annoncer au syndicat ce matin dans un document qui leur a été remis. Le maire de Belfort vient de nous le confirmer également. 792 licenciements sont ainsi prévus dans la branche gaz. Le centre de service de General Electric va être lui aussi touché à Belfort. 252 personnes devront être licenciées, annonce la direction. C'est donc un coût extrêmement dur. GE, c'est le plus gros employeur privé du département du territoire de Belfort. Un salarié sur 4 va ainsi être touché par ce plan social qui avait été largement dénoncé par les syndicats, par les élus depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et qui sont allés voir Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui ont envoyé un courrier au président de la République pour l'alerter sur la situation. Emmanuel Macron avait alors répondu que le dossier GE Belfort faisait l'objet de la plus grande vigilance de la part de l'État.
Vous le disiez, voici la General Electric, plus gros employeur privé de Belfort, évidemment. Le maire de la ville, les Républicains, Damien Meslot, est catastrophé et demande à l'État d'agir.
C'est vraiment un gros coup pour le territoire de Belfort et nous avons besoin de tous nos moyens. Les collectivités territoriales, j'ai eu la présidente de région, j'ai eu le président du conseil départemental, j'ai eu nos parlementaires, députés, sénateurs, et nous sommes tous prêts à investir pour développer de l'activité industrielle. Mais il faut aussi que l'État fasse pression sur certains grands groupes pour qu'ils viennent plutôt implanter de l'activité industrielle ici, dans le territoire de Belfort, plutôt que sur des pays low cost. Et là, l'État a un poids important, il peut intervenir et il peut faire pression sur ces groupes. Nous avons du foncier, nous avons des possibilités de construire les bâtiments pour les mettre à disposition des entreprises. À l'État de jouer son rôle et d'attirer, de pousser les entreprises à venir s'implanter ici plutôt que dans des pays low cost.
Alors on attend la réponse de Bercy à propos de Belfort. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il y a quelques jours n'était pas très optimiste et il avait plaidé pour qu'il y ait des solutions pour chaque salarié et que General Electric se réinvente industriellement. Autre dossier industriel, le mariage en vue entre Renault et Fiat et ses conditions posées par Bruno Le Maire ce matin, zéro fermeture d'usine en France. Que l'opération se fasse dans le cadre de l'alliance Renault-Nissan et que le groupe, le futur groupe, participe à l'Airbus des batteries électriques engagé ces dernières semaines. Mais globalement en France, on voit plutôt ce mariage d'un bon œil. Chez Nissan, au Japon, c'est une autre affaire, Yann Rousseau.
Sur le papier, un rapprochement entre Fiat Chrysler et Renault aurait des conséquences positives pour Nissan. D'abord, une opération d'une telle ampleur mettrait fin, au moins de manière temporaire, au projet de fusion que Renault voulait imposer depuis des mois à son partenaire japonais, qu'il possède à hauteur de 43%. Ce serait un soulagement pour le groupe de Yokohama, qui demande du temps pour pouvoir se réorganiser après le scandale Ghosn et pour redresser ses résultats. Par ailleurs, Nissan serait ravi de voir l'État français perdre de son influence dans un grand groupe FCA Renault. Les Japonais ont toujours soupçonné Paris de vouloir lui imposer ses vues. Mais malgré ces avantages potentiels, Nissan reste méfiant vis-à-vis de la proposition de Fiat Chrysler. Sur le plan industriel, il ne croit pas aux complémentarités. Chrysler et Nissan sont des concurrents directs, notamment aux États-Unis. Comment arbitrer entre eux? Par ailleurs, Nissan ne voit pas ce que Fiat Chrysler peut apporter à l'alliance. Le groupe italo-américain est faible en Asie, où les ventes sont les plus dynamiques. Il n'est pas très en avance dans les grandes transitions technologiques vers les voitures autonomes et électriques. Dans ce contexte, l'idée d'une fusion complexe ne séduit pas beaucoup les Japonais.
Merci Yann Rousseau pour ses précisions. L'économie très concrètement, c'est aussi la déclaration d'impôts et la date limite pour déclarer vos impôts sur Internet. Si vous habitez la Corse, département autrefois 20 et maintenant 2A, 2B, et les départements qui vont jusqu'à 49, pour les autres de 50 à 95, la date limite c'est le 4 juin.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Longtemps, très longtemps, pendant la campagne électorale de 2017, la droite était la grande favorite pour accéder à l'Élysée. Aujourd'hui, cette sensibilité politique reste celle de millions de Français. Et pourtant, le principal parti qui la représente traverse une nouvelle fois une crise profonde. 2 ans après la défaite de François Fillon, la droite, le parti Les Républicains, a obtenu son pire score historique aux élections européennes. Dimanche, 8,48% des voix. Bureau politique tendu hier soir. Quelques voix appellent à la démission du chef, Laurent Wauquiez. Le président du Sénat, Gérard Larcher, prépare une initiative. On voit cela dans un instant. D'abord, direction l'Assemblée. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Maxence, les jeunes députés, les Républicains n'ont qu'une crainte, c'est de revivre un épisode de déchirure façon Chirac-Balladur ou Copé-Fillon.
Oui, on a affaire à des polytraumatisés de la guerre des chefs, mais ce midi, les attaques restent vives contre Laurent Wauquiez. Le député du Lot, Aurélien Pradier, 33 ans par exemple, il vient de lancer au patron « Les Français te considèrent comme insincère, tu es le reflet de ce que nous sommes devenus collectivement ». Et pour lui, la sortie de crise ne passera ni par les états généraux de la droite, promis en septembre, ni par l'initiative de Gérard Larcher, président du Sénat.
On va pas faire une OPA sur le parti. Si Gérard Larcher veut créer un conseil des sages, eh bien créons une deuxième main, une deuxième jambe qui sera un conseil du renouvellement. Pour moi, il y a une urgence qui est de répondre dès cette semaine et dès la semaine prochaine à la gravité de la situation.
Les jeunes veulent donc monter leur propre chapelle. Mais non, c'est une boucle WhatsApp avec 6 personnes, se moque un autre jeune député. Ça part donc un peu dans tous les sens. Si on enclenche des divisions et des querelles internes, on est définitivement mort, vient de lancer Laurent Wauquiez. Timidement applaudi, mais les loyalistes restent majoritaires ici. Marc Le Fur et Daniel Fasquelle.
La question d'homme, elle est très secondaire.
Il faut éviter toute réaction intempestive à chaud, il faut savoir garder son sang-froid.
Cette réunion de groupe s'est donc transformée en une thérapie de groupe. Chacun a vidé son sac sans vraiment sortir son couteau. Laurent Wauquiez a gagné un peu de temps en attendant l'offensive sénatoriale.
Merci Maxence Lambrecq en direct de l'Assemblée nationale avec Olivia Branger. Alors depuis dimanche, parmi les leaders des Républicains, vous le disiez, seule Valérie Pécresse a évoqué la démission de Laurent Wauquiez, silence de François Baroin. À des titres divers, Xavier Bertrand, Jean-Pierre Raffarin et d'autres ont pris leur distance. La dernière initiative en date, c'est celle ce matin de Gérard Larcher qui était l'invité de nos confrères de France Info.
Je ne peux pas me résoudre à ce que les Républicains n'incarnent qu'un segment qui aujourd'hui pèse 8%. Et c'est la réalité. En tous les cas, moi je reste aux Républicains, mais je prendrai aussi mes initiatives. Je pense que pour Laurent Wauquiez, c'est un sacré défi. Moi, j'ai demandé la démission de personne. J'ai dit simplement qu'il faut nous remettre très profondément en question, revoir nos projets, nos stratégies d'alliance et tout simplement notre positionnement politique.
Mais on ne change pas un président qui perd.
Dans la logique gaulliste, c'est au président lui-même d'en tirer les conclusions.
Et s'il ne le fait pas ?
S'il ne le fait pas, il a des statuts qui le protègent.
Gérard Larcher avec Marc Fauvel ce matin, le président du Sénat qui veut reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre. Quelle est la stratégie Larcher, Yael Goz ?
C'est une initiative qui est censée dépasser le cadre actuel des LR, les Républicains pourraient même changer de nom, et permettre d'enjamber Laurent Wauquiez, accroché à son parti comme une bernique à son rocher, tacle un proche du président du Sénat. L'opération Larcher consiste à le pousser vers la sortie, malgré les statuts du parti qui le protègent théoriquement jusqu'en 2022. Un commando préparé en amont, bien avant l'annonce des résultats dimanche soir. Durant le week-end, les téléphones chauffent entre Gérard Larcher, Bruno Retailleau, Valérie Pécresse et le centriste Hervé Morin. Dimanche soir, constatant que Laurent Wauquiez reste à son poste, ils accélèrent l'opération. Coup de téléphone hier de Morin à Wauquiez. « Laurent, tu dois partir. C'est ton échec. Tu n'es pas populaire. » Fin de non-recevoir. « Je suis élu par les militants. L'échec est collectif. » Retailleau essaye à son tour. « Laurent, ta relation avec les Français est abîmée. Aussi rétrécie, la droite peut disparaître. On perd le centre. Est-ce que tu veux démissionner ?» En guise de réponse, il y aura ce bureau politique hier soir, ces états généraux convoqués pour la rentrée. Trop tard pour ses adversaires qui veulent réussir une démonstration de force autour de Gérard Larcher dès mardi prochain, 17h, ni au Sénat ni à Vaugirard, un lieu neutre pour tenter d'ouvrir cette nouvelle page.
Merci Yael Gozin, des plus hauts commis de l'État. Il y a quelques années, ancien ministre de l'Intérieur, exclu de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre du mérite, c'est officiel, c'est au journal officiel pour Claude Guéant. Il paye là l'affaire des primes en liquide. L'invité de ce journal est la maire de Paris, Anne Hidalgo, entretien enregistré il y a moins d'une heure. La mission d'information et d'évaluation sur le périphérique parisien remettait ce matin ses conclusions. Les principaux points étaient déjà connus. Pour une limitation de la vitesse à 50 km/h sur le périph', c'est 70 aujourd'hui. Une voie réservée au transport en commun, au covoiturage, aux véhicules propres. Et puis le périph' interdit aux poids lourds en transit. Je reprends toutes ces préconisations, nous dit Anne Hidalgo. Première question, à quelle échéance? 2021-2022?
J'espère avant, mais ça aujourd'hui je ne suis pas en mesure de vous dire la date précise, mais j'espère avant parce qu'on est sur des mesures qui, dès lors qu'elles seront acceptées par l'État, elles sont portées par les élus, pourront voir le jour assez rapidement. Je vous rappelle qu'en 2014, j'ai conduit déjà une baisse de la vitesse sur le périphérique. Il était à 80 km/h, on l'a passé à 70 km/h. Et d'ailleurs, le résultat a été extrêmement positif.
Parce donc, que, s'il y a un accord
en fait,
assez large,
baisser la vitesse. Voilà, il y a un accord très très large. Donc ça peut aller assez vite. En tous les cas, je souhaite qu'on puisse aller vite, puisque
voir dès 2020,
c'est quand
si
même
je vous comprends
de faire
bien.
Baisser. Je l'espère. Et en tout cas, l'urgence, c'est de faire baisser la pollution. Et là, je pense que la France a pris beaucoup trop de retard sur les questions de pollution de l'air. La France a été beaucoup trop un pays pro-diesel. Et aujourd'hui, nous en payons les conséquences, puisque la pollution aux particules fines et la pollution des moteurs thermiques est une des causes des maladies respiratoires et d'une mortalité, je rappelle. 6000 morts par an à l'échelle de la métropole parisienne liées directement à la pollution atmosphérique. Et dans ces 6000 morts, nous savons qu'il y a en plus, enfin c'est toutes les catégories, mais il y a aussi en plus des affections respiratoires pour les enfants. Les nourrissons sont très sujets à cela. Des maladies, y compris cardiovasculaires, pour les personnes plus âgées et fragiles. Donc l'urgence est là. L'urgence est vraiment de réduire la pollution. Je pense que plus personne, en tous les cas, il n'y aurait plus que quelques ou climato-sceptiques ou sceptiques sur le rôle de la pollution sur la santé qui pourraient aujourd'hui tenir face à la population en expliquant qu'il est urgent d'attendre. Je pense qu'il est urgent d'agir.
Et la transformation plus large du périphérique, voire sa quasi-suppression, Madame Hidalgo, ça c'est à échéance quoi, 2030 ?
D'abord, la transformation plus large, elle est effectivement sur d'abord avec une étape à 2024, puisque bien évidemment l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques va nous permettre aussi d'expérimenter sur le périphérique des voies spécifiques, puisqu'il y a des voies dédiées au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques. On pourra tester des véhicules non peut-être pas totalement autonomes, mais à assister et qui permettront de faire des progrès. Et bien sûr, à un horizon 2030, je pense, une suppression du périphérique, une transformation avec, là, ça sera évidemment à travailler, à étudier, des passages qui seront peut-être encore nécessaires, des passages, parce que c'est un ouvrage d'art exceptionnel aussi, le périphérique, qui pourront, comme à Séoul, donner lieu à des parcs, des jardins suspendus. Je l'ai dit sous forme de boutade aujourd'hui lors d'une conférence de presse, j'ai assisté à une fermeture du périphérique à la porte de la chapelle le jour où on a désamorcé une bombe de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme je l'ai dit ce jour aux représentants de l'État, puisque c'est possible lorsqu'on désamorce une bombe, ça doit aussi être possible pour y faire des fêtes et d'autres activités. Donc ça, c'est à horizon 2030. Mais je pense que ça peut être un très très beau projet auquel il faut associer bien sûr les Parisiens et les Franciliens, d'où l'idée de cette gouvernance partagée que je proposerai aussi au prochain Conseil de Paris.
Anne Hidalgo, quel enseignement tirez-vous des élections européennes ?
Je ne vais pas vous faire d'enseignement particulier, si ce n'est que je suis heureuse que l'écologie soit le sujet porté par beaucoup de nos concitoyens. En tous les cas, à Paris, très clairement, il y a une volonté de plus d'écologie. Je m'en réjouis. C'est ce que nous faisons avec toute mon équipe. Et puis, l'enseignement que, bien sûr, qu'il faut du rassemblement, de l'unité pour offrir des perspectives à nos concitoyens, des perspectives claires, mais je suis ravie que l'écologie ait été placée aussi haut dans le vote, notamment des Parisiens.
20% pour l'Europe Écologie des Verts, 33% pour la liste L'Oiseau et 8% pour les socialistes. C'est le résultat à Paris. L'entretien avec Anne Hidalgo enregistré ce matin. Elle ne souhaitait pas manifestement répondre à d'autres questions politiques. Ça n'est pas encore le timing de la maire, on l'a bien compris. Le Brexit, à présent, les conséquences politiques des élections européennes ailleurs qu'en France. Alors qu'un sommet se réunit à Bruxelles aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement réunis pour tirer les enseignements du scrutin pour discuter de la répartition des postes en Europe et notamment le futur président du Conseil européen. Games of Thrones va commencer, dit l'un des prétendants à la présidence de la Commission européenne. C'est donc à Bruxelles dans les heures à venir. Et en Grande-Bretagne, sur fond de Brexit, la conséquence de ces élections, elle se joue à gauche et la pression du Parti travailliste pour obtenir un nouveau référendum. Le Parti travailliste qui a obtenu 14% des voix seulement dimanche, alors que le parti du Brexit a remporté cette élection. Les travaillistes, les uns après les autres, appellent à un nouveau référendum. Écoutez la responsable des affaires étrangères au sein du parti travailliste, elle s'appelle Emily Thornberry.
Nous n'avons pas été clairs sur la chose que les gens voulaient entendre. Nous aurions dû dire assez simplement que n'importe quel accord venant de ce gouvernement devrait être soumis à un référendum et que l'option de rester devrait être sur le bulletin et que le Parti travailliste soutiendrait cette option.
Voilà pour cette déclaration. Il y en a eu 1000 sur le même thème depuis dimanche dernier. Haute Soufi, clairement, pression venue de la gauche et du Parti travailliste pour un nouveau référendum.
Il aura fallu une première claque aux élections locales au début du mois et une deuxième lors du scrutin européen pour réveiller les ténors du Parti travailliste. Depuis dimanche soir, ils sont nombreux à appeler à un second référendum sur le Brexit, poussant leur leader Jeremy Corbyn à clarifier sa position sur le sujet. Il dit toujours préférer des élections générales, mais dans le cas où elles ne seraient pas organisées, il est favorable à un vote populaire. Le message vise à reconquérir les électeurs de gauche qui se sont détournés du Parti travailliste dimanche au profit des libéraux-démocrates ou des Verts. Ça a par exemple été le cas à Islington, dans le nord de Londres, la circonscription de Jeremy Corbyn. Mais il est aussi destiné aux cadres du parti. Depuis dimanche, des voix s'élèvent pour réclamer un changement de direction et l'exemple de Theresa May poussée à la démission la semaine dernière par les membres de son propre camp aura sans doute servi d'avertissement au chef de l'opposition. À Londres, Haute Soufi, France Inter.
Voilà pour les enseignements de ce scrutin européen en Grande-Bretagne. En Italie, Matteo Salvini s'attend à une amende salée de la part de la Commission européenne pour le déficit en Italie. Il s'attend à une amende de 3 milliards d'euros de la part de l'UE. Au moment où le chômage des jeunes atteint 50% dans certaines régions, dit Matteo Salvini, quelqu'un à Bruxelles nous demande une amende de 3 milliards. Mon énergie sera utilisée pour changer ces vieilles règles, dit le leader populiste italien.
C'est assez inédit. Un procureur, et pas n'importe lequel, qui recadre le ministre de l'Intérieur. Bonjour Jean-Philippe Deniaud.
Bonjour Bruno.
Dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Lyon vendredi, le procureur de Paris Rémi Yates, arrivé récemment à son poste, rappelle les règles à Christophe Castaner.
À Christophe Castaner et à l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui depuis ce week-end multiplie tous les deux les déclarations en livrant des éléments de l'enquête en cours. Ce matin sur France Info, le maire de Lyon a d'abord dit qu'on en saurait plus dans quelques heures, jusque-là tout va bien, puis il a raconté comment les policiers avaient identifié le suspect de l'attentat de vendredi dans les moindres détails. Quant à Christophe Castaner, après avoir lui-même annoncé l'arrestation d'un suspect sur Twitter hier matin, ce matin encore sur CNews, le ministre a révélé que le suspect se montrait peu loquace en garde à vue et que les éléments recueillis semblaient démontrer qu'il avait eu l'intention de tuer. Pourtant, la loi est claire dans ce domaine. C'est l'article 11 du Code de procédure pénale. L'enquête est secrète et seul le procureur peut rendre public des éléments objectifs afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public. Un tel recadrage du parquet de Paris ce matin est rare, mais les dérapages de ministres de l'Intérieur le sont moins. D'ailleurs, Gérard Collomb, quand il était place Beauvau, avait déjà pris cette fâcheuse habitude de révéler des informations, pas toujours exactes d'ailleurs, sur des enquêtes en cours et déjà d'agacer le procureur de Paris.
Merci Jean-Philippe Deniaud. Nous en venons à la chronique santé de Daniel Messager. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Comme chaque mardi dans ce journal, aujourd'hui avec vous, les derniers chiffres sur la consommation de tabac en France. Ils sont publiés par Santé publique France.
1 600 000 fumeurs en moins depuis 2016. C'est la confirmation de chiffres déjà donnés par Agnès Buzyn en mars. C'est une tendance à la baisse qui se poursuit. Et c'est la proportion de fumeurs quotidiens qui a le plus baissé, 24,5% en 2018. Contre presque 27% l'année précédente. Alors grâce à quoi ? À l'augmentation des prix, 10 euros d'ici 2020, au remboursement des substituts nicotiniques et au mois sans tabac en novembre.
Grâce aussi à l'usage de la cigarette électronique ?
Tout à fait, utilisée comme outil de sevrage. Près de 4% des adultes de 18 à 75 ans disent vapoter tous les jours. C'était 2,7% en 2017 et elle attire principalement les fumeurs, dit Santé publique France. Il est rarissime qu'un vapoteur n'ait jamais fumé avant. La cigarette électronique peut contenir ou non de la nicotine, mais sans combustion, l'utilisateur n'est pas exposé aux substances toxiques dont les goudrons.
Autre constat, chez les jeunes, Daniel, l'addiction arrive très vite.
Très peu en ont conscience que cette addiction est ultra rapide. Écoutez le docteur Jean Pierrot, il est addictologue et pneumologue au CHU de Clermont-Ferrand.
La nicotine est une drogue très addictive. Elle pénètre en quelques secondes jusqu'au cerveau, elle stimule les récepteurs et en 3 à 6 semaines, un jeune peut devenir addict du tabac. Il y a dans la fumée une substance qui va marquer de manière définitive au comportement et à ce qui est contenu dans la fumée.
Et pourquoi plus chez les jeunes ? Parce que le cerveau, c'est une question de plasticité ?
Oui, un cerveau n'atteint sa maturité totale que vers 20-25 ans. Eh bien, le cerveau se tatoue à la nicotine et au comportement associé à ses premières cigarettes très tôt.
Et Daniel Messager, dernière précision, malgré la baisse de consommation constatée, le tabac reste encore un tueur redoutable.
Certainement cause d'une mort sur 8 en France. Et la tendance est défavorable chez les femmes, car elles paient aujourd'hui leur entrée plus tardive en tabagisme que les hommes. Le nombre de morts attribuables au tabac a diminué de 11% chez les hommes en 15 ans, alors qu'il a été multiplié par 2,5 chez les femmes. Et dernier message d'information, pas assez connu, hein, c'est le nombre d'années de tabagisme qui entraîne des maladies, plus que le nombre de cigarettes fumées. Par exemple, si vous vous dites « j'ai moins de risques parce que je fume 10 cigarettes au lieu de 20, j'ai diminué », eh bien c'est faux. Ce qui compte, c'est si vous fumez depuis longtemps.
Merci pour ces précisions. L'actualité de la santé, c'est encore ce constat. Le sport, évidemment, c'est bon pour la santé, mais les Françaises n'en font pas assez. C'est la conclusion d'un rapport que vous avez lu, Véronique Julien.
Les petites filles font autant de sport que les garçons jusqu'à 11-12 ans, c'est ensuite que ça décroche. Entre 12 et 17 ans, elles ne sont plus que 53% à pratiquer une activité physique. Un chiffre qui tombe à 46% à l'âge adulte. Résultat, les Françaises ne font en moyenne que 7600 pas quotidiens et restent assises 7h25 par jour. Un tiers d'entre elles n'atteignent même pas les 5000 pas quotidiens. Ennemi numéro 1, les écrans, déplore Jean-François Toussaint, professeur de physiologie et directeur de l'IRMES, l'Institut de Recherche Médicale sur le Sport.
immense risque au début du 21e, qui arrive autant pour les hommes que pour les femmes, mais semble-t-il un peu plus encore pour les femmes, c'est celui de la sédentarisation par le biais d'une communication qui est de plus en plus immobilisatrice.
Sans surprise, ce sont les femmes du Nord les plus sportives en Europe, les néerlandaises, les finlandaises notamment, avec seulement 5h47 de sédentarité chaque jour. Elles n'ont pas forcément plus de volonté que les françaises, elles ont tout simplement des sollicitations plus nombreuses.
Les néerlandaises vous disent, j'apprécie ce qu'il y a autour de moi, je peux utiliser à peu près tout ce que je veux, piste cyclable, salle de sport, tout cela est beaucoup plus développé que ça ne l'est en France.
Alors avec les Jeux Olympiques qui se profilent en 2024 en France, il est temps de s'y mettre, de valoriser pistes cyclables et infrastructures en tout genre qui donneront envie aux Françaises de se mettre en mouvement. Le professeur Toussaint rappelle à toute fin utile que les Jeux Olympiques de Londres en 2012 ont permis de donner le goût du sport à quelques 2 millions de femmes britanniques.
Eh bien faisons du sport, alors allons à Roland-Garros. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Et un petit Français qui vient de s'illustrer, Fabrice.
Oui, à chaque jour son exploit en fait à Roland-Garros, et c'est celui aujourd'hui d'Eliott Benchetrit, le Niçois 232e mondial et issu des qualifications. Eh bien Benchetrit a écarté le Britannique Cameron Nouri, 49e joueur mondial, en 3-7, 6-3, 6-0, 6-2. Une victoire surprise, la plus belle de la carrière, comme vous pouvez l'imaginer, de ce Niçois de 20 ans qui écume essentiellement les tournois Challenger, vous savez, c'est les tournois de deuxième catégorie du circuit professionnel, et c'est tout simplement la première fois que Benchetrit remporte un match en Grand Chelem. Lui qui a débuté sa carrière en 2016. En revanche, tournoi terminé pour Jérémy Chardy, battu par Kyle Moon en 5-7. Le match marathon avait été interrompu hier par la nuit. Il a repris aujourd'hui. Ça n'a duré que 7 minutes. Juste le temps pour Kyle Moon de marquer les deux jeux nécessaires. Et à l'arrivée, c'est 7-5 dans la cinquième manche.
Merci Fabrice. On attend Caroline Garcia tout à l'heure. Le plaisir de lire, le plaisir de parler de livres. C'est cela, le prix du Livre Inter, décerné par les auditeurs de France Inter. Les jurys 2019, les jurés 2019 sont au travail, en train de lire les 10 romans en course. Le dimanche 10 juin, ils se réuniront à la maison de la radio. La date approche, moins de 2 semaines. D'ici là, dans ce journal, tous les jours, les 10 auteurs en course, justement, parlent de leur roman au micro d'Eva Bétan. La première à se lancer, c'est Emmanuel Bemak Tam, qui a écrit Arcadie, publié chez POL. L'histoire commence dans une communauté hippie imaginaire.
Les communautés hippies existent encore, hein. Il y en a en France, il y en a au Portugal, à Tamera, il y en a en Allemagne, aux États-Unis. La mienne a ceci de particulier qu'effectivement, elle est constituée de gens qui sont un peu délaissés pour compte de la société. Alors, il y a d'anciens toxicomanes, des gens très malades. Comme ils correspondent plus trop bien au canon esthétique en vigueur, entre autres, ils se réfugient entre eux dans cet endroit paradisiaque.
Et au milieu de cette communauté, donc le narrateur, c'est une fillette, une sorte de Zazie, avec une verve et une ironie formidable.
J'ai souvent des narratrices, plus souvent d'ailleurs que des narrateurs, jeunes et en même temps très lucides, que finalement je conçois comme des espèces de redresseuses de tort, de justicières, hein, c'est-à-dire que je lui prête une lucidité, un regard sur le monde plein d'acuité, et puis l'idéalisme aussi de la jeunesse, et ce qui me permet finalement de donner au récit une dimension quand même assez satirique.
À un moment donné, il y a le monde extérieur qui arrive. Ces gens qui vivent dans cette sorte de communauté sont confrontés à des migrants.
Alors j'ai installé ma communauté imaginaire à la frontière franco-italienne. Donc à un endroit de France où la question des réfugiés se pose de façon cruciale. Je savais qu'il y aurait cette confrontation entre ma communauté un peu idyllique et puis cette réalité très dure qui est celle des réfugiés à la frontière franco-italienne. Et effectivement, donc cette espèce de communauté que j'ai imaginée, finalement, à petite échelle, elle peut représenter la France, l'Europe ou plus largement le monde des nantis et la façon dont il réagit à l'afflux des réfugiés. Voilà, la plupart des gens se disent que ces gens sont malheureux et qu'il faut les accueillir. Et en même temps, on aimerait bien que l'accueil se fasse ailleurs que chez nous.
Donc, vous voulez nous bousculer un peu, vous ? Qu'est-ce que vous cherchez ?
Alors, étrangement, quand j'écris, je ne me dis pas du tout que je vais provoquer. Et en même temps, je suis bien forcée de convenir, compte tenu des réactions de lecteurs que j'ai de plus en plus, que mon roman déstabilise un peu. Peut-être justement parce que j'ai cette héroïne hors norme, peut-être parce qu'effectivement, il n'est pas tout à fait politiquement correct.
La romancière Emmanuel Bemak Tam, avec Eva Bétan, entretien à écouter plus longuement sur franceinter.fr et sur notre site. Vous pouvez également lire les premières pages de chacun des 10 livres sélectionnés pour ce prix du Livre Inter.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Avec une masse d'air en provenance du nord et les températures seront vraiment fraîches pour la saison, dans le détail, vous aurez au maximum cet après-midi 15 degrés du côté du Havre, 16 à Lille comme à Reims, Orléans, Tours et La Rochelle. Sur les cours de Roland-Garros, n'attendez pas plus de 17 degrés, mais aussi vers Nancy, Grenoble et Biarritz. Prévoyez 18 à Dijon et Bordeaux, 19 à Lyon, ça sera un peu mieux en se rapprochant de la Grande Bleue, avec 22 à Montpellier, 24 à Marseille et 25 à Toulon. Et puis côté ciel, le temps sera agité avec de fréquentes averses dans la plupart des régions. Prévoyez des orages des Hauts-de-France à la région parisienne, gagnant la région centre, puis le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Seule la Bretagne, la Normandie, la Picardie, sans oublier le Languedoc-Roussillon et la basse vallée du Rhône, profiteront de belles éclaircies.